sera pour la soirée.
Nous sommes là, nous serons là. On l'a été pour contre l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes et on le sera contre le projet d'Amazon. Merci.
Du fond de ma cité HLM jusque dans ta campagne profonde, notre réalité est la même et partout la révolte gronde.
Autre monde, autre monde, autre zone. Un écho des luttes sur Jet FM.
On n'avait pas la CBA papa, SDF chômeur ouvrier, paysan immigré.
Une émission proposée par Attaque 44 pour mieux comprendre les luttes du local à l'international.
C'était chacun pour sa gueule, leur système pouvait prospérer. Mais fallait bien qu'un jour on se réveille et que les têtes se remettent à tomber. On lâche rien.
Autre monde,
autre zone.
Bonjour, ici Agnès, contente de vous retrouver pour présenter un événement ouvert à toutes et tous lié au Festival des Solidarités qui aura lieu le 23 novembre après-midi. Le thème du Festisol cette année est environnement et droits des peuples. Pour relier ces deux thèmes, nous parlerons d'extractivisme en Guinée avec Amadou Ba et Alpha Idi Baldé. Et Fabien Lebrun, enseignant-chercheur, parlera de l'extractivisme en général et du Congo en particulier. Les multinationales de l'extractivisme sont responsables d'atteintes à l'environnement et aux droits des peuples, tout comme les accords de libre-échange qui se concluent entre les États, mais souvent au profit des multinationales. Pour illustrer musicalement ce thème, environnement et droits des peuples, nous écouterons une chanson engagée de Tiken Jafakoli, Tonton d'América. Tiken est né en Côte d'Ivoire, c'est un militant altermondialiste qui se bat pour l'annulation de la dette des pays africains et explique dans ses chansons que les peuples qui vivent sous l'oppression sont des humains, avec les mêmes droits que tout être humain. Nous écouterons également un slam guinéen sur l'environnement et un extrait de chanson de Patti Smith, People have the power, les gens ont le pouvoir. Premier entretien avec Mariama Siré Camara et Suzanne Rival pour présenter la Maison des citoyens du monde, la MCM, située rue Lequin à Nantes, ainsi que l'événement du 23 novembre.
Alors, la Maison des citoyens du monde, c'est une association qui s'est créée en 1996 d'un besoin sur le territoire, notamment le territoire nantais, de rassembler des structures de solidarité internationale et de solidarité locale et de défense des droits humains, parce que c'était un peu tout éparpillé. Et donc, du coup, suite à des événements comme internationaux comme le génocide du Rwanda, il y a eu vraiment ce besoin de se rassembler et de croiser les regards du local à l'international autour des solidarités. Aujourd'hui, on est un collectif de 35 associations, donc des associations très variées, et on travaille alors sur plusieurs plans. On est un réseau régional, on est un centre de ressources, on fait partie du réseau RITIMO, qui est un réseau national de centres de ressources autour des solidarités. Donc les gens peuvent venir emprunter, consulter nos ressources documentaires. On a aussi tout un volet accompagnement de projets de solidarité internationale, formation et sensibilisation à ces sujets-là, migration, interculturalité, solidarité. Et puis enfin, on coordonne aussi beaucoup d'événements, dont le Festival des solidarités en région et à Nantes, dont va vous parler Mariama.
Et donc, comme Suzanne le disait, on coordonne le Festival des solidarités à Nantes, mais aussi dans les autres départements, donc dans la région Pays de la Loire. Et donc, les objectifs du Festival des solidarités, c'est informer sur les enjeux des solidarités et donc comment la MCM aussi peut permettre à certains collectifs d'associations de se retrouver, de mutualiser un peu leurs ressources en vue de donner un peu une grande importance à ce qu'on fait, comment on valorise la diversité des acteurs impliqués. Et aussi encourager et favoriser le partenariat et les dynamiques collectives qui peuvent exister entre les acteurs de nos sociétés. Et donc là, ces dynamiques, nous, on contribue à la formation des collectifs, on les accompagne. Donc il y a un programme régional que la MCM coordonne, mais ce qui est important, c'est comment les acteurs se retrouvent pour co-organiser toutes les animations du début jusqu'à la fin. Donc, il faut se dire que le festival, c'est un cycle annuel. Donc, c'est de permettre au collectif de travailler tout le long de l'année sur cette démarche pédagogique. Donc, l'idée étant aussi de favoriser l'implication des citoyens, comment les citoyens peuvent s'engager dans la vie de leur cité. Voilà.
Merci. Quel est le sujet donc qui va être traité cette année?
Alors cette année, le thème du festival, c'est environnement et droits des peuples. Et donc ce que j'ai oublié de dire aussi, c'est que le festival des solidarités est organisé dans plusieurs autres pays. Donc on a 12 pays d'Afrique et dans toute la France aussi.
Merci. Et donc on a une soirée, un après-midi, le 23 novembre, où on va être en duplex avec la Guinée. Qui veut de vous expliquer un petit peu comment ça va se passer?
Pour compléter, le thème donc de cette année, comme l'a bien dit Mariama, c'est environnement et droits des peuples. Et c'est un thème qui devient à partir de cette année pluriannuel. Donc on va pouvoir travailler collectivement sur ce thème pendant plusieurs années pour vraiment pouvoir creuser et créer des partenariats et créer des vraies coopérations autour de ce thème sur du long terme.
Et du coup, grosso modo, après Suzanne va rentrer dans les détails des animations, mais grosso modo, c'est que ce projet est né à partir du lien qu'on a développé avec la Guinée, donc un projet qui a pour valeur quand même la réciprocité. Donc c'est comment on développe des regards croisés entre les acteurs qui sont sur nos territoires et les acteurs qui sont en Guinée, qui organisent aussi le Festival des Solidarités. Et donc là, on essaye quand même de permettre aux jeunes qui vivent sur nos territoires de les accompagner, de les mettre en contact avec d'autres jeunes qui vivent en Guinée pour un peu favoriser leur participation et leur implication dans les activités de solidarité internationale. Donc, Suzanne peut nous présenter un peu les activités qui sont prévues.
Tout à fait. C'est un projet, comme tu disais, qui est né de cette envie aussi d'avoir des regards croisés et puis d'aller hors du centre-ville de Nantes pour nous, notre cas. Donc, on a décidé de travailler avec un centre socioculturel à Saint-Joseph-de-Porterie, en bordure de Nantes, avec les jeunes, le club ado du centre socioculturel qui travaille déjà sur de l'écriture, des arts plastiques, etc. Et puis qui avait un volet interculturel. Et nous, du coup, on est venus en leur proposant ce projet qui est extrêmement bien reçu, qui a été validé par les habitants, par le comité des habitants, par les parents des ados qui fréquentent le club ado. Et l'idée, c'est de créer un projet de A à Z, donc qui sera... Le premier point, on va dire, c'est le 23 novembre au Centre socioculturel de Saint-Joseph-de-Porterie à partir de 15h30. C'est un peu une introduction. Et puis après, ce projet, on va le dérouler sur toute l'année 2025 avec les jeunes. On a déjà démarré, on a fait plusieurs rencontres déjà. Et puis voilà. Là, le 23 novembre, on avait aussi envie d'apporter un peu des discussions de fond sur la thématique environnement et droits des peuples, et on a choisi le thème de l'extractivisme et de l'exploitation minière en Guinée pour discuter avec des experts en France et des experts en Guinée, des personnes témoins également, pour pouvoir parler avec la population, avec les habitants, avec aussi des experts pour nous éclairer sur ces sujets qui peuvent parfois être nébuleux quand on ne les connaît pas. On veut vraiment des interventions de qualité, donc on aura 7 tables rondes, participatives évidemment, parce que c'est une table ronde, donc les questions du public seront également prises et mises en avant. Et ensuite, pour avoir le côté culturel qui est en lien avec le projet qu'on mène à l'année, on va avoir une restitution de textes de slam qui ont été faits par les jeunes du centre socioculturel, mais également en Guinée, le groupe de jeunes qui a travaillé sur un spectacle autour du slam et du thème de l'extractivisme et qui va pouvoir également être proposé au centre socioculturel de Conakry.
L'eau, la terre, le feu, l'air. Chut. L'aube, c'était le jeu se meurt. Racines, tiges, branches et feuilles. On déracine, tu tranches, puis laisse en deuil. Je jure à m'élever derrière le sommaire, car le jour s'est levé avant l'arrivée du soleil. L'innocente mort lente regarde dans le vitre. L'ignorance errante qui se réclame arbitre. Que le tonnerre de ma voix voile vos voix. Que le tronc de mes strophes trompe vos tranches. Que mes vers envers vous renversent. Et que le prix de mes rimes prime sur vos crimes. Je m'étouffe, je tousse. De l'oxygène, non, de l'ortigène. La ventile mèche chaude depuis que la terre est devenue chauve. Le soleil ne nous pardonne plus. Partout de la poussière. J'ai peur à jamais qu'on ne ferme nos parapluies. Car la couleur verte a cessé de pousser depuis hier. Le ciel veut fermer sa pompe puisque le jardin naturel a été trahi. Sa confiance est brisée sans compte bon, sans quelle vilaine tragédie. De végétation en habitation, le vert se transforme en désert. Depuis que les feux sont devenus voisins de la brousse, on assiste au festival des feux de brousse, là où les flammes portent aux animaux la frousse. Il n'y a plus d'humidité parce qu'on n'a plus d'humilité. Il n'y a plus d'ombre parce qu'on a perdu le sens d'être homme. Les poissons ont tellement pleuré que nos villes, ses larmes ont inondé. Le sol a tellement peur que voilà, on assiste au tremblement de terre. À la belle nature, on a dû fou le camp. Et bienvenue, on a dû au vol le camp. Face à cette réalité au regard si sombre, j'ai appuyé sur le bouton stop pour y voir tout ça. Et j'ai compris qu'entre ce monde et l'au-delà, il n'y a que nos yeux qui sont mirages. Donc je prie même si je sais qu'il n'y aura plus de miracle. Car si l'atmosphère s'élâche et meurt sans frein, et que le désert avance comme un train sans frein, si le sang est dans un fameux pétrin, et que les poissons sont empoisonnés sans crainte, si la vie se vide de vue, et que la mer s'émerde et meurt, si la faune s'effondre puis s'effondre, et que la flore s'efforce mais se torde, si l'animal animal se mal et que la plante se plante mais se flanque, si la terre s'éteint puis s'éteint, c'est parce que la science est devenue comme un chien enragé. Ça remède le temps ne fait que s'aggraver. Et l'homme, lui, a la tête d'un croque mort depuis la nature, ça remord. Alors que le tonnerre de ma voix voile vos voix, que le tronc de mes strophes trompe vos tranches, que mes vers envers vous vous renversent, et que le prix de mes rimes prime sur vos crimes. Tellement qu'on a peur de l'au-delà, on cherche à télécharger le paradis d'aller là-bas. Mais vous savez, l'au-delà n'est pas si mal que ça. Il y a plein de monde qui vivent là-bas. En tout cas, moi, j'affirme et confirme avec un ton qui sonne comme que nous sommes, qu'on consomme déjà le terminus. On joue aux gentils ou aux gens dits, elles sont déjà comptées nos minutes. Slam.
Merci Mariama, merci Suzanne pour toutes ces explications et merci aussi à Alpha Omar Bari, artiste slameur, nom de scène Aobé le Calife, que nous avons entendu dans un slam sur l'environnement. L'extraction de la bauxite en Guinée pose de nombreux problèmes, dont les principaux sont les dommages sur l'environnement et les atteintes aux droits des peuples. La bauxite est un composant de l'aluminium. L'extraction de la bauxite a été faite pendant des années par la société française Alteo, qui s'est faite remarquer en France par une pollution de boue rouge dans les calanques de Marseille. En Guinée, l'extraction de la bauxite pollue également, par des poussières rouges, les paysages sur des hectares. Les communautés guinéennes qui vivaient sur ces terrains qui appartiennent maintenant à la mine ont été spoliées de plusieurs façons. Pour défendre les populations autochtones, plusieurs organismes se sont créés, dont l'ONG Action Mine Guinée, créée le 10 décembre 2012 à Conakry. Cela fait donc maintenant un peu plus de 10 ans que cette organisation non gouvernementale à but non lucratif s'est assignée pour but de participer à la surveillance des industries extractives et d'agir aussi pour protéger les citoyens et défendre leurs droits. En plus de l'extraction de la bauxite, Amadou et Alfaïdi parleront du projet Simandou et de la société Rio Tinto. L'entretien a été fait en visio, il dure environ 30 minutes et laissera une petite place à une chanson de Patti Smith, « People have the power », « Le peuple a le pouvoir ».
Quand on fait le bilan de l'extractivisme en Guinée, on se dit que il y a eu un boom minier entre 2014 et maintenant. Et le constat que nous avons fait, c'est qu'il y a eu le nombre d'investissements dans le secteur extractif, notamment dans le domaine de la bauxite, a augmenté de façon exponentielle. En 2014, on avait que, disons, 5 sociétés en exploitation sur toute l'étendue du territoire. Et aujourd'hui, nous avons une dizaine de sociétés en exploitation, environ 15 sociétés en exploitation et d'une grande envergure. Et nous voyons nous constatons qu'il y a eu un appétit grandissant des investisseurs dans le secteur extractif, et ceci a augmenté la peine des populations, a augmenté la pression foncière, a augmenté la pollution, a augmenté les cas de violation des droits humains au niveau des zones d'exploitation telles que la zone de Boké où on a visité. Et certaines populations ont été déplacées, donc ont perdu accès à leurs moyens de subsistance. Et il y a également des communautés qui ont vu source d'approvisionnement en eau détruite ou encore impactée par l'exploitation minière. Donc, il y a eu une augmentation des investissements, mais également une croissance de la pauvreté, une croissance exponentielle des problèmes dans la zone entre les entreprises et les communautés.
Est-ce que vous, à Action Mine, vous voyez un aspect positif pour un pays comme la Guinée dans l'exploitation des mines?
En fait, il y a certains aspects positifs. L'aspect positif qu'on peut noter dans l'exploitation minière en Guinée, c'est la création d'emplois. Et le secteur minier est le secteur qui crée plus d'emplois bien rémunérés que tous les autres secteurs. Alors, beaucoup de Guinéens aujourd'hui gagnent de l'emploi et qui parviennent à subvenir aux besoins de leur famille à travers l'exploitation minière. Quant à l'État, les recettes de l'État, l'État tire l'essentiel de ses recettes du secteur extractif. Prenons le rapport ITE 2023, c'est-à-dire c'est le rapport qui retrace, qui fait la traçabilité des paiements effectués par les entreprises en faveur de l'État en Guinée. En 2023, l'État guinéen dépendait à 78% des recettes d'exportation du secteur minier, 24% du produit intérieur brut et 33% des revenus budgétaires de l'État venaient du secteur extractif. Et je sais que cette situation est en train d'augmenter de façon très croissante parce qu'il y a entre-temps, entre 2023 et maintenant, de nouvelles sociétés qui pointent à l'horizon et non des moindres, c'est bien sûr les projets, les sociétés qui évoluent sur le projet Simandou, notamment Rio Tinto, et Winning Consortium Simandou qui vont exploiter 100 millions de tonnes de fer par an avec une augmentation considérable des revenus de l'État. Donc, sur le côté, disons, revenu, ça impacte le fisc, ça impacte en quelque sorte les individus qui gagnent, disons, de l'emploi au sein de ces sociétés minières. Par contre, il y a de sérieux problèmes qui se posent au niveau structurel dans le pays. C'est-à-dire, le pays dépend presque exclusivement du secteur extractif. Et ça, c'est extrêmement dangereux pour un pays, hein, de dépendre d'un secteur aussi volatile que le secteur extractif, qu'on ne peut pas maîtriser parce que nous ne sommes que des producteurs du brut. Nous ne transformons pas la bauxite en alumine, encore moins en aluminium, pour créer plus de valeur ajoutée et que créer en tout cas une certaine dépendance du monde vis-à-vis de la Guinée. De l'autre côté, nous constatons que l'exploitation minière est en train d'avoir un impact assez considérable sur le foncier. Il y a beaucoup, ça augmente le nombre de personnes déplacées, ça augmente le nombre de cours d'eau, disons, pollués, ça augmente le nombre de personnes qui quittent leur tradition, qui quittent leur environnement familial habituel, qui était vraiment plus ou moins acceptable pour eux, pour des destinations où l'entreprise fait des constructions qui ne tiennent pas compte parfois de leur volonté. Donc ceci entraîne une déstructuration du tissu social au niveau de certaines localités où les communautés sont déplacées, mais aussi ça entraîne en quelque sorte une certaine frustration de ces communautés vis-à-vis de l'État, vis-à-vis des entreprises qui adoptent des pratiques néfastes de réinstallation et de compensation, parce que ces pratiques sont injustes au regard, bien sûr, des bonnes pratiques internationales ou des normes qui sont développées à l'international par rapport à ces questions de compensation. Il y a un besoin de régulation du secteur extractif dans la mesure où les lois actuellement en vigueur, certaines sont obsolètes, d'autres, comment dirais-je, sont moins appliquées par les structures de l'État. Et quand nous prenons l'architecture qui gouverne, l'architecture bien sûr légale qui gouverne le secteur extractif, la Guinée est membre de l'Union africaine. L'Union africaine a développé un outil, c'est-à-dire un cadre d'orientation qu'on appelle la vision minière africaine, et la Guinée s'inscrit dans cette logique. La Guinée s'inscrit dans la logique de la mise en œuvre des directives minières de la CEDEAO, mais également est membre de plusieurs initiatives de transparence développées par les pays d'exploitation minière. Je parle de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives pour apporter plus de transparence et de redevabilité à la gouvernance du secteur extractif. Il y a également le processus de Kimberley sur la certification du diamant pour éviter que le diamant du sang n'intègre le circuit commercial mondial pour alimenter et parfois des conflits comme on a connu dans les années 90 dans beaucoup de pays de l'Afrique tels qu'au Libéria, en Sierra Leone ou encore au Congo ou en Angola où des populations ont été décimées, des milliers de personnes ont été décimées à cause de l'exploitation minière en arsenic, voilà, incontrôlée. Il y a également plusieurs autres initiatives auxquelles soit la Guinée souscrit ou que les entreprises qui évoluent en Guinée souscrivent. Je parle par exemple des normes de performance de la SFI qui voudraient que les entreprises qui évoluent en Guinée avant de commencer une activité extractive, elle devrait mettre en place un système d'évaluation, hein, faire l'état des lieux du site, élaborer une étude d'impact social et environnemental, avoir un plan de gestion environnementale et sociale, et si nécessaire, élaborer un plan d'action de réinstallation et de compensation, tout en consultant au préalable les communautés, et en prenant en compte l'ensemble des pertes que les communautés devront subir du fait de son action dans la localité. Et en ce qui concerne la compensation, la norme 5, de performance 5, voudrait que les terres de remplacement soient, disons, co-identifiées et par l'entreprise et par les personnes qui doivent être délocalisées. Donc, il y a ces normes qui normalement sont plus ou moins appliquée par les entreprises. Et ça dépend, en fait, parfois des entreprises. Certaines entreprises d'origine occidentale appliquent les normes de performance de la SFI, bien qu'on note quelques insuffisances dans l'application de cette norme. Et par contre, les entreprises chinoises profitent d'un vide juridique que nous avons dans notre pays. Et je vous avais signalé que on a travaillé avec le gouvernement pour élaborer, disons, un instrument permettant de pallier au vide juridique que nous avons aujourd'hui en matière de compensation et de réinstallation dans le cadre de l'exploitation minière.
Est-ce que tu crois que c'est parce qu'il y a peut-être un peu de corruption?
Là, en fait, comment dirais-je? Je dirais, hein, permettez-moi, le taux de prévalence de corruption en Guinée est élevé. Il suffit juste de voir les rapports de Amnesty, plutôt de Transparency International par rapport à l'indice de perception de la corruption qui sont publiés par an, pour savoir que la corruption est aujourd'hui le mal le plus partagé dans ce pays. À tous les niveaux, les structures sont corrompues. Et quand les structures sont corrompues, elles ne font pas correctement leur travail. Je prends par exemple l'institution en charge hein, du contrôle des entreprises en matière de respect des normes environnementales et sociales, qui n'arrive pas à jouer correctement son rôle parce que l'entité en question n'a pas suffisamment de moyens techniques et financiers. Et pour aller faire une inspection au sein d'une entreprise, la structure hein, envoie une requête à l'entreprise qui doit être inspectée pour avoir, bien entendu, le soutien logistique nécessaire pour aller faire l'inspection sur l'entreprise. Donc, imaginez le rapport qui pourrait venir en fait d'une telle inspection, où c'est l'inspecteur qui prend en charge les frais logistiques de l'inspecteur. Oui, je dis c'est une sorte d'inversion des rôles. Alors, en lieu et place de l'État qui devrait normalement faire valoir sa puissance publique partout pour faire respecter et la législation du pays, c'est les entreprises qui dictent leurs lois et l'État devient en fait une sorte de la structure de l'État devient une sorte joue le rôle d'un sous-traitant dans le processus. Et c'est extrêmement dommage pour les communautés normalement impactées.
Quand on est allé voir la mine, enfin la mine, on la voit de loin, on peut pas la visiter, mais le village qui est à côté, on a rencontré des gens extrêmement choqués par les conséquences de l'exploitation minière sur leur vie, sur leurs ressources, aussi bien les plantes que les arbres, et on voit bien que l'impact, il est. Alors, j'entends bien que ça crée de l'emploi. Est-ce que le fait de créer de l'emploi compense ce que des communautés ont perdu? Et comment faire pour que ces communautés puissent retrouver les ressources qu'elles avaient avant l'extraction de la mine? Est-ce que c'est possible d'ailleurs?
Bien sûr que non, c'est pas possible. Ce que ces communautés ont perdu, elles le récupéreront jamais. Sauf que, en face de ces communautés, quand l'État a besoin de venir récupérer cette partie et la mettre à la disposition d'une compagnie minière, personne ne peut faire face. Personne. Il y a pas cette communauté qui peut être structurée pour ça. Il y a pas cette ONG qui peut. Il y a personne qui peut faire face à ça et empêcher l'État de prendre la concession et la mettre à la disposition de qui il veut. Ce que nous pouvons faire en tant qu'OSC, c'est d'essayer de faire des solutions palliatives pour atténuer un peu la situation. Pourquoi? Parce qu'au début, d'abord, on vient embarquer ces populations avec des promesses fallacieuses de sorte que ces populations croient qu'avec cette exploitation, que ces populations vont complètement sortir de la pauvreté. C'est petit à petit que ces populations redescendent sur Terre et se rendent compte qu'elles ont été bafouées de bout en bout. Donc, nous, ce que nous pouvons faire, c'est d'essayer d'abord en amont, accompagner les populations pour les faire comprendre ceux qui sont en train de venir là. Prenez garde, tenez compte de ci et de ça, tenez compte de ça, faites ci, faites ça. Donc, les mobiliser, les former, les sensibiliser, les accompagner, les structurer, les informer. Quand la compagnie est là, elle leur dit, voici vos droits, voici les droits de la communauté, voici les droits de l'État. Sinon, à un moment, tout ça se mélange. L'État a fait sortir son bras armé, la police et la gendarmerie, et plus personne ne peut faire quelque chose. Donc, ce que ces communautés peuvent faire, c'est de récupérer ce qu'elles peuvent récupérer. Récupérer un petit emploi par-ci pour un des membres de la communauté, quand c'est possible. Récupérer la compensation qui est tout le temps maigre, donc totalement sous-évaluée quand c'est possible par là. Donc, récupérer ce qui est possible de récupérer, profiter le peu qu'il peut profiter de la présence de la compagnie minière. Et nous, si on a les moyens de les informer, de les accompagner pour leur faire comprendre leurs droits à travers les codes miniers et autres, on essaie d'être à leur disposition. Sinon, c'est que ces communautés vont perdre. Elles ne le récupéreront plus jamais. Ça, c'est certain, en tout cas pour moi. Mais Amadou, qui a plus d'expérience que moi, est mieux placé en fait pour répondre.
En fait, les emplois, en fait, il n'y a pas de proportionnalité. Les emplois ne sont pas proportionnels aux dégâts causés sur l'environnement. Les emplois produits ne sont pas proportionnels au, disons, au traumatisme psychologique que les communautés prennent par rapport à l'exploitation. Et ce n'est vraiment pas proportionnel aux, comment dire, aux espèces de la biodiversité que les communautés perdent par rapport à comment dirais-je à l'exploitation minière. Mais compte tenu du fait que c'est quelque chose qui tient à cœur l'État et que l'État s'impose aux communautés avec sans disons la possibilité d'avoir disons les moyens de dire non à l'exploitation, alors les communautés subissent et puis de façon, comment dire, très rude, l'exploitation. Mais avec l'accompagnement des ONG, avec l'accompagnement que nous faisons par rapport à plutôt à l'information, à la sensibilisation et à l'accompagnement par rapport à l'autonomisation juridique que nous faisons pour les communautés, ça les permet de pouvoir utiliser certains leviers juridiques pour pouvoir se faire, disons, compenser justement. Et de pouvoir disons, intenter parfois même des procès contre les entreprises en cas de violation de leurs droits. Parfois, certains tribunaux tranchent en leur faveur et parfois aussi, c'est tout à fait un problème d'accéder aux voies de recours qui sont prévues dans le cadre de l'exploitation minière. Donc, il n'y a pas de proportionnalité. Les pertes sont beaucoup plus énormes pour les communautés que les gains.
D'accord. Je ne sais pas si en Guinée, il y a cette problématique-là, mais dans d'autres pays où il y a des exploitations minières, on voit le nombre, l'exploitation d'enfants en très grand nombre. Et les chiffres qui sont donnés sont certainement bien inférieurs à la réalité, des enfants qui travaillent, des enfants qui travaillent très jeunes. Est-ce que c'est le cas aussi en Guinée?
Dans les mines industrielles telles que la bauxite et autres, il n'y a pas d'enfants qui sont utilisés.
Oui.
Par contre, il y a une loi qui est rigide là-dessus. C'est, pour l'instant, de ce côté, c'est une réussite. Par contre, ça ne veut pas dire que des enfants ne sont pas utilisés dans des mines en Guinée. Il y a les mines traditionnelles, notamment de l'or en Haute-Guinée, où des enfants et des femmes sont beaucoup utilisés. Il y a tous les travers de la société qu'on peut retrouver au niveau de ces mines. Quand vous êtes venu ici, on n'a pas pu aller de ce côté de la Guinée, mais il y a ce qu'on appelle les mines artisanales. Donc, n'importe qui peut venir creuser une mine, quoi. Et là, les enfants sont beaucoup utilisés. Il y a beaucoup d'enfants dans ces zones-là. Beaucoup quittent l'école. Beaucoup. À bas âge pour aller dans creuser chercher l'or, en fait, quoi. Il y a des femmes qui sont exploitées dans ces mines, il y a des enfants aussi qui sont exploités dans ces mines, mais à ma connaissance, c'est avec l'or seulement que cela est possible en Guinée, tandis que dans d'autres pays, il y a plusieurs minerais que les gens peuvent exploiter de façon artisanale, ce qui accroît un peu plus dans la problématique dans des pays comme le Congo. Mais en Guinée aussi, l'exploitation minière artisanale se fait aussi avec des enfants et des femmes également.
OK, merci pour la réponse à cette question. J'aimerais maintenant qu'on aborde le projet Simandou, parce que ça, en France, ça nous est présenté comme étant un projet absolument fabuleux.
Le village.
Fabuleux et qui apportera plein de ressources à la Guinée. Donc, j'aimerais savoir quelle est votre opinion sur ce sujet-là.
C'est un gigantesque projet avec des investissements colossaux. Ceci dit, parce qu'on parle au minimum de 25 milliards de dollars, c'est gigantesque, c'est énorme, beaucoup d'infrastructures, plusieurs préfectures, traverser minimum 600 km de rail, et autant de populations impactées, en fait.
Oui, donc c'est énorme. Non.
Ce qu'ils ont vendu, c'est quoi? C'est de mettre des rails, transporter à la fois des personnes, de la marchandise et du minerai de fer. On ne sait pas ce que cela va donner. Ce qui est une bonne chose. Ce qui est une bonne chose, soit dit en passant, quand on connaît, moi j'étais dans la région, à mon retour de France, là, j'étais dans la région parce que j'ai perdu mon oncle vers là-bas. Quand on connaît les difficultés liées au déplacement des personnes, des biens et des services d'ici, de Conakry vers là-bas, c'est une bonne chose. Maintenant, comment cela va se matérialiser, on ne sait pas. Ce qui est sûr, il y a plusieurs préfectures qui sont impactées, plusieurs populations sont impactées, et donc autant l'environnement va être impacté, autant la biodiversité va être impactée. Si c'est pour l'instant, voilà, je vais, de mon point de vue, pour l'instant, je n'ai pas vu quelque chose qui différencie ce projet des projets antérieurs. Il y a autant d'opacité dans ce projet que celui antérieur. Un ami qui est membre du Conseil national de la transition, quand ils ont voté la convention qui établit ces compagnies, a été votée. Moi, j'ai voulu savoir parce que c'est comme ça aussi on fait avec un ami qui est à l'intérieur de l'Assemblée pour dire, aide-moi à trouver la version qui a été adoptée de la loi. Il m'a fait croire qu'il n'y avait rien à partager, quoi, parce qu'ils n'ont reçu que quelques articles. L'essentiel de la convention est secrète. C'est entre quelques personnes. Donc, des conventions secrètes et souvent des clauses. Des clauses qui arrangent plus les compagnies minières que le pays, donc les communautés qui sont impactées. Maintenant, nonobstant ce tableau plus ou moins sombre, avec Amadou, avec son ONG, on est allé voir, on a vu par exemple Winning Consortium, des Chinois qui sont sur ce projet. On a vu Rio Tinto aussi. En mettant des rapports, en allant voir les communautés, en les organisant, en les structurant, en informant à ces communautés leurs droits et devoirs, mais aussi leurs responsabilités. Qu'est-ce qu'ils peuvent attendre de l'État? Qu'est-ce qu'ils peuvent attendre de la compagnie? En leur disant ce qu'ils doivent réclamer et comment ils doivent le réclamer, en mettant des rapports équilibrés, contradictoires, fouillés, incontestables, ces compagnies sont. On est en train de comprendre que ces compagnies sont dans l'obligation d'écouter, de nous appeler, on s'assoit, on discute, on met nos rapports en parallèle, les leurs, parce qu'ils ont des rapports de terrain aussi, avec des missions de terrain aussi. Ce qui est parfois compliqué, c'est d'avoir des personnes, parce que de la même manière que nous allons essayer d'organiser, structurer les communautés, les informer, eux-mêmes, ils font la même chose. Parfois, ils débauchent les gens qu'on a essayé d'organiser et qui étaient dynamiques sur le terrain. Mais c'est un jeu un peu de chat et de la souris. On fait de sorte qu'on essaie quand même de tirer des choses de ces. On voit aujourd'hui que même les Chinois qui étaient très rigides au début, qui étaient très fermés, qui étaient très introvertis sur leur projet, qui ne voulaient absolument rien entendre, qui disaient, nous on a signé avec l'État, allez-y voir avec votre État. Aujourd'hui, ils sont en train de recruter des cabinets pour évaluer les études d'impact environnemental. Ils sont en train de se ramollir petit à petit.
Oui.
Pour écouter. Ils sont en train de se ramollir. Rio Tinto aussi aide aussi parce que Rio Tinto a plus d'image à l'international, c'est ce qu'on a compris finalement, qu'à défendre. Ce qui fait qu'il y a quand même de l'écoute qui est en train de s'installer petit à petit. Et nous, à chaque brèche, à chaque petite fenêtre qui est ouverte, on essaie de s'engouffrer là-dedans pour aller encore un peu plus en profondeur.
OK. Donc, si je résume, le projet Simandou au niveau infrastructure, c'est particulièrement intéressant pour la Guinée,
Si c'est
notamment
réalisé, si c'est
si
réalisé
c'est
comme ça.
réalisé. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que sur le papier, c'est un projet qui peut apporter beaucoup, notamment au niveau des transports, parce qu'effectivement, on a pu voir que les transports étaient un peu compliqués, mais que si ce n'est pas appliqué après, eh bien, il va y avoir plus de dommages pour la population que de gains par rapport à un projet comme ça, quoi, si c'est comme d'habitude. Est-ce que je peux poser une dernière question? Les multinationales minières sont une sorte de post-colonialisme qui ont remplacé les États.
Complètement. Aujourd'hui, quand vous prenez le budget de Rio Tinto, vous prenez le budget de Nestlé, ces compagnies, Nestlé, ce n'est pas une compagnie minière, mais c'est un peu pareil. Ces compagnies sont 5-10 fois plus chères que toute l'Afrique de l'Ouest réunie, une seule compagnie d'entre elles. Et la puissance que ces compagnies ont, ça n'a rien à voir avec ce que nos États. Avec ce que nos États ont. Aujourd'hui, c'est la forme, c'est notre forme de néocolonialisme qui ne
Oui.
dit pas son nom. Et ce qui est grave là-dedans, un projet minier, il vient enrichir deux, trois personnes ici. Les deux, trois personnes qui sont impliquées, ils s'enrichissent et tous les autres tirent. tire le diable par la queue.
Oui.
Et je suis certain, je sais que les pays occidentaux sont plus ou moins derrière cette stratégie, accompagnent cela, cette façon de faire. Il y a qu'à voir la façon dont le conseil de l'ambassade avait balayé pour d'un revers de main par rapport à Alteo pour comprendre que les États ont des intérêts colossaux derrière cela, mais c'est souvent c'est des non-dits en fait.
Merci Amadou et Alfaïdi. Fabien Lebrun, qui participera à la table ronde du 23 novembre, va conclure avec quelques compléments d'information sur l'extractivisme.
En Cubans avec un drapeau, moi je dirais, il ne cause jamais. Il ne nous restait plus que la peau sur les os. Alors distribution de Dakar à Lomé, c'était du riz long grain américain. Des sacs partout, mais pas un seul bouquin. Les hommes ont dit, puisque c'est dans les colis qu'on trouve à manger, nous on reste au lit. Il nous a donné la recette du bonheur. Il nous a même donné la. Il est arrivé habillé comme un cowboy. Il était beau comme un paquet de clopes. Avec dans sa horde la dernière Game Boy et des jouets de toutes sortes. Des jouets qui valaient une fortune et une fusée pour aller sur la lune. Oh.
Thème de l'extractivisme. Donc, moi, je l'ai quand même pas mal développé là dans le bouquin que je viens de publier. C'est vrai que c'est un thème qui commence à être pas mal émergent pour différentes raisons, notamment pour ses impacts environnementaux, écologiques, également aussi par rapport à la situation de droits humains et notamment sur la répression de défenseurs de l'environnement ou de militants qui s'opposent à des projets extractivistes. Donc ça, c'est une chose. Alors c'est vrai qu'en termes de publication, c'est assez intéressant. Moi, évidemment, je ne suis pas tout seul, je m'appuie sur plusieurs personnes. Alors je pense notamment, vous connaissez peut-être l'association SysText pour Système Extractif, notamment avec Aurore Stéphane. Donc, qui documente énormément tous les impacts et les méfaits de différents projets extractivistes. Bon, je ne vais pas tous les citer, mais il y a quand même deux, trois références. Juste cette année aussi, alors on ne s'est pas concerté, mais il y a un très bon livre de Célia Izohar qui est sorti, qui s'appelle La ruée minière du XXe siècle. Et donc, c'est vrai là, on s'est croisés il y a 3 ou 4 semaines et on s'est dit qu'on ne s'était pas concerté, mais bon, là, on a quand même mis deux bons. Voilà, en 2024, ça fait deux écrits qui sont assez costauds quand même sur ce thème-là. Alors, je pense qu'il y a plusieurs raisons pour lesquelles on en parle un peu plus. Bah, tout simplement, si on se base sur les différents chiffres, hein, qui sont des sources institutionnelles, par exemple comme l'Agence internationale de l'énergie ou autre, eh bien, tout simplement, est-ce que disent tous les spécialistes des métaux? C'est que, alors il y a deux temps. En premier temps, on peut cibler là ce qu'on a appelé un peu, enfin ce qu'on appelle toujours, je pense, la révolution numérique à partir du début des années 2000, mais ce qui est un peu son prolongement, puisque souvent c'est les mêmes métaux, ce qu'on appelle aujourd'hui la transition énergétique. Depuis 20 ans, alors les chiffres et les estimations, les projections, ça varie un peu, Mais souvent, c'est un peu les phrases un peu choc, mais ça montre bien un peu l'ampleur de, et c'est aussi sans doute la raison pour laquelle on en parle, c'est qu'on estime, par exemple, je peux citer Philippe Biwix ou d'autres, que dans les 20 ou 30 prochaines années, on devra extraire autant de métaux que ce qu'on a extrait dans toute l'histoire de l'humanité. Bon, voilà, donc ça donne un peu la mesure pour notamment les nouvelles technologies. Pour d'autres secteurs industriels, je pense à l'aéronautique, mais aussi à l'industrie de l'armement, et bien souvent ces secteurs en fait réclament le même type de métaux. Et donc voilà, c'est une des raisons pour lesquelles on en parle, c'est normal, c'est que l'extraction minière explose. Alors on parle de boom minier ou de regain extractiviste depuis le début des années 2000. Et là, plus les projets industriels du type pour alimenter la transition énergétique se mettent en place, et plus on se rend compte que la demande en minéraux et en métaux est complètement extravagante. Et d'ailleurs, la plupart des spécialistes disent que ça pourra pas se mettre en place de cette façon. Ou alors, en tout cas, on n'ira sans doute pas au bout, mais si ça se met en place, évidemment que ça passera par davantage d'impacts et de méfaits qu'on a pu observer, qu'on observe actuellement et malheureusement qu'on peut deviner dans les 10, 20 ou 30 prochaines années, quoi. La Terre ou la planète est inégalement répartie en termes de ressources naturelles. Et donc moi, je me suis penché notamment sur l'Afrique centrale et le Congo, qui de mon point de vue, on n'en parle pas assez, encore trop peu, même si peut-être sur l'aspect associatif, humanitaire, ONG, on en parle, ou dans les milieux un peu écologiques, militants, politiques. Mais je trouve que du point de vue ne serait-ce que des partis, des syndicats et puis des médias en général, on en parle quand même très peu, proportionnellement à la tragédie qui se passe là-bas depuis une trentaine d'années. Et donc c'est vrai que le Congo, de par son exceptionnalité, je dirais, du sous-sol, vraiment sa singularité minéralogique et géologique, fait que ce pays eh bien, est pillé de toutes parts, puisque c'est sans doute le seul pays au monde qui peut se vanter, si je puis dire, comment dire, de disposer de quasiment tous les métaux qui sont présents dans ce qu'on appelle le tableau périodique. En fait, c'est tout simplement la table qui recense tous les éléments chimiques, dont les minerais. Et donc, moi, je me suis, entre guillemets, un petit peu amusé, si je puis dire, à voir quels métaux correspondent à quels composants, par exemple, pour les smartphones, ou plus généralement pour les appareils connectés. Et puis, les composants, les métaux qui correspondent aux composants pour alimenter, par exemple, le photovoltaïque, pardon, ou l'éolien. Et on se rend compte que, eh bien, on a énormément besoin du Congo. Alors, quelques exemples, hein, que je donne, mais qui sont connus. Il y a, par exemple, le coltan. Le Congo dispose de la plus grande réserve mondiale de coltan. Et sans le coltan, on ne peut pas fabriquer notamment ces condensateurs, qui sont ces tout petits composants qui permettent de miniaturiser notamment les smartphones. On a un autre métaux qui fait un peu plus l'actualité, c'est le cobalt. Le cobalt, il est énormément présent au Congo. Là, on parle de 80% des réserves mondiales et à peu près déjà entre 50 et 60% de la production, qui est d'ailleurs largement happée par la Chine. Et puis, on a découvert récemment d'énormes réserves de lithium, donc cobalt et lithium, hein, qui servent notamment à fabriquer les batteries des voitures électriques, mais aussi des smartphones et des ordinateurs, tout ce qui est batterie à charge électronique. Bon, voilà. Et puis, je pourrais, enfin, là, vraiment détailler de nombreux minerais qui correspondent à des composants. Bon, je pense à l'or. On oublie souvent l'or. On voit ça plus pour les bijoux, les réserves des banques centrales, mais on a de l'or dans les cartes mères et les circuits imprimés. L'or qui est très présent dans l'est du Congo et qui est notamment pillé par les pays voisins, le Rwanda et l'Ouganda. On a du tungstène. Le tungstène, on le retrouve dans les vibreurs, les haut-parleurs. On a de l'étain qui sert notamment pour les soudures des circuits électroniques. Bon, et puis je pourrais détailler, on a aussi le germanium pour la technologie Wi-Fi, le cuivre pour les câbles sous-marins, donc tout ce qui est infrastructure aussi pour connecter ces terminaux et faire en sorte qu'on soit tous aussi connectés. Bon, voilà, malheureusement, la liste est longue et après, évidemment, je peux évoquer les conditions dans lesquelles se font cette extraction minière, tant du point de vue humain que du point de vue écologique et des terres et de la biodiversité sur place, quoi.
Avant de se quitter, je voudrais vous parler d'un autre événement du Festisol, qui sera lui le 24 novembre de 14h à 18h dans les locaux de la Maison des Citoyens du Monde. Il s'agit d'un labo fiction pour imaginer ensemble un autre monde, après le capitalisme, après l'autoritarisme, un futur désirable, écologiste, féministe, anticapitaliste et démocratique. Le Labo Fiction est un format imaginé par les ateliers de l'Antémonde. Il s'agit d'un atelier d'imagination prolongeant l'univers développé dans l'ouvrage Bâtir, aussi écrit par le collectif. Il s'agit d'un moment collectif de recherche et d'expérimentation, sous forme de discussions en petits et grands groupes. Nous proposons d'embarquer le public dans l'univers uchronique de l'Araka, mouvement social qui démarre avec les printemps arabes en 2011 et s'étend à d'autres révoltes ailleurs que sur la planète. Et le Labo Fiction sera animé par Cédric d'Attaque 44. C'est fini pour aujourd'hui. Notre prochain rendez-vous, qui approfondira le thème de l'extractivisme, sera présenté le mardi 10 décembre à 17h. En attendant, n'oubliez pas l'événement Festisol du 23 novembre à 14h30, à partir de 14h30, salle de l'Accord à Saint-Joseph-de-Porterie. Tous les renseignements sur les sites d'Attaque 44 et de la Maison des Citoyens du Monde. Plein de bonnes choses pour toutes et tous. Salut!
Ma cité HLM, jusque dans ta campagne profonde, notre réalité est la même, et partout la révolte gronde.
Autre monde, autre monde, autre zone. Un écho des luttes sur Jet FM.
On n'avait pas la CBA papa, SDF chômeur ouvrier, paysan immigré.
Une émission proposée par Attaque 44 pour mieux comprendre les luttes du local à l'international.
C'était chacun pour sa gueule, leur système pouvait prospérer, mais fallait bien qu'un jour on se réveille et que les têtes se remettent à tomber. On lâche rien.
Autre monde,
autre monde, autre zone.
Autre zone.